ce matin beaucoup de dons spirituels appelant à la repentance, au salut. Tout à l'heure, je lancerai un appel et j'inviterai certains à s'engager dans leur cœur. On lit Éphésiens chapitre 4, verset 27. Je continue sur le thème de l'Église. Même si les lectures que j'ai choisies pourraient étonner au départ. On peut lire à partir du verset 25 et on ira jusqu'au verset 27. Éphésiens chapitre 4, verset 25. C'est pourquoi renoncez aux mensonges et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain. Car nous sommes membres les uns des autres. Si vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne donnez pas accès au diable. Éphésiens chapitre 6, verset 10. Donc vous tournez une page. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix, prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Amen. Nous avons déjà eu l'occasion de parler à plusieurs reprises sur l'Église. On a commencé par parler sur les paradoxes de l'Église et on a vu un petit peu les dimensions de l'Église. On s'est arrêté sur les raisons d'être de l'Église, pourquoi Dieu a voulu l'Église. On a considéré le vendredi soir quelques images bibliques sur l'Église pour mieux comprendre ce qu'elle est et pour que chacun puisse trouver sa place. Je voudrais ce matin commencer, je finirai la semaine prochaine, je voudrais aborder les ruses du diable contre l'Église, les attaques, les dangers qui menacent l'Église. L'épître de Paul aux Éphésiens a pour thème principal Christ et son Église. Et le diable est mentionné dans les deux lectures que nous avons faites. Ne donnez point accès au diable, alors j'ouvre tout de suite une parenthèse. Pour des chrétiens, ça veut dire quoi? Ça veut dire ne péchez point. Parce que c'est le péché qui donne accès au diable. Je ferme ma parenthèse. Et puis, il est question des ruses du diable et un petit peu après, des traits enflammés du malin. Alors, nous n'avons pas trop parlé de Satan, du diable, dans nos prédications, dans nos... Pourquoi? Parce que nous, on veut parler de Jésus. C'est lui qui nous intéresse. C'est lui qui est au centre. C'est lui qu'on veut glorifier. Parce qu'aussi, des fois, en parlant trop du diable, vous avez des croyants qui pourraient glisser d'une foi vers la superstition. J'ai connu des personnes, elles avaient plus peur de ce que manigance le diable, de craindre Dieu. Ce n'est pas le but. Nous, on s'occupe du Seigneur. Mais j'ai connu des personnes, leur foi ressemble plus à une superstition et faisait forcément des choses qui ne correspondent pas à la foi. Et puis parce que je dirais, le diable a souvent bon dos. Excusez-moi de parler comme ça. Mais l'homme, des fois, va rendre le diable responsable de certaines situations et ne pas assumer ses responsabilités. Il va voir, des fois, une opposition démoniaque là où il ferait mieux de se prendre en charge, d'assumer lui-même, de faire mourir les œuvres de la chair. Il va vouloir une délivrance, là où il faudrait peut-être se sanctifier. Je m'en rappellerai toujours, un jour je visitais un frère et il me disait « Le diable, il m'a attaqué ». Alors je lui disais « Expliquez-moi-en un peu plus ». Et il me dit « Sur la route, je me suis fait verbaliser ». Et je l'ai regardé avec des yeux, je n'ai pas pu en dire plus. Mais je crois qu'avec mes yeux, il a compris la bêtise qu'il avait dit. Et j'espère. Mais alors c'est caricatural, mais c'est une vraie, hein, ce que je vous dis. Mais des fois, le diable, il a bon dos. Hein, et ne mettons pas là où il n'est pas, et je crois qu'il faut la chair. Et cette nature de pécheur qui est en nous, hein, je crois que c'est surtout ça sur lequel on va mener notre combat. Néanmoins, la Bible dit que nous avons un adversaire. Et la Bible nous parle de ses ruses, de ses tactiques, de ses manœuvres contre nous individuellement et contre l'Église. Je le dis bien, l'Épître aux Éphésiens s'adresse à l'Église. Et ces textes que nous connaissons là, nous n'avons pas à lutter contre la chair, le sang. Collez-les bien sur l'Église d'abord, avant. Je voudrais ce matin considérer trois ruses du diable contre l'Église. Et la semaine prochaine, nous en verrons trois autres. Les méthodes n'ont pas changé. Les moyens ont peut-être changé, mais les méthodes n'ont pas changé. On va considérer cela autour de l'église d'Éphèse. L'église d'Éphèse, c'est une église intéressante pour nous. Pourquoi ? Parce que dans le Nouveau Testament, on peut suivre un peu cette église. Dans Actes 19, nous avons la naissance de cette église. On aura l'occasion de lire quelques versets. Mais on voit que Dieu va faire une œuvre extraordinaire. Il y aura des délivrances de possédés, des guérisons miraculeuses. Il y aura quelque chose de magnifique avec de l'opposition. Et puis, quelques mois plus tard, dans Actes 20, on voit que Paul y repasse. Donc là, on est en 53, là on passe, et quelques mois plus tard, Paul passe et voit les anciens de d'Éphèse quand il se rend à Jérusalem. Et il leur dit des choses importantes. Et puis, on découvre cette église dans cet épître de Paul aux Éphésiens, écrite une dizaine d'années plus tard. Même si elle ne parle pas trop de la vie pratique de cette église. Mais quand même, ça nous permet de comprendre certaines choses. On découvre cette église ensuite dans l'épître de Paul à Timothée. Parce qu'à ce moment-là, Timothée est à Éphèse. Et il doit s'occuper. Et là, on se rend compte qu'il y a des problèmes dans cette église. Et puis on peut enfin l'observer dans les lettres de l'Apocalypse. Rappelez-vous, Jésus s'adresse, la première de ces sept lettres, Jésus s'adresse à l'église d'Éphèse. Et là, c'est en l'an 90. Donc sur une quarantaine d'années, on peut un petit peu suivre cette église. Et ce que l'on peut dire, c'est que l'on voit qu'elle est passée par toutes sortes de combats, toutes sortes de luttes, et qu'elle a dû faire face à toutes sortes de difficultés. Je voudrais aborder cette première ruse. La première ruse du diable, c'est le dénigrement sur l'Église. Les calomnies, les intimidations, les critiques, l'hostilité, le rejet, ça va jusqu'à la persécution, la destruction du matériel et jusqu'à l'atteinte physique aux personnes. Dans Actes 19, je disais qu'il y a eu au départ, quelque chose d'extraordinaire. Au départ, ça a été difficile. Et puis, au bout d'un moment, il va y avoir des guérisons formidables avec des miracles étonnants, des délivrances de possédés. Mais il va y avoir de la réaction. Si vous lisez Actes 19, versets 23 à 40, vous voyez que ça a réagi, hein, et ça a bardé, hein. Il y a eu des calomnies, des pressions, des manœuvres. Certains chrétiens ont été battus. Ça a réagi. Mais ce n'est pas le seul exemple. Dans l'église de Jérusalem, elle a aussi un démarrage fabuleux. Hein. Acte 2, ça nous fait rêver. Acte 3, c'est super. Mais acte 4, ça commence à chauffer. Hein. Et ce sont les religieux, les juifs, à ce moment-là, qui vont créer les difficultés. Quand on regarde beaucoup d'églises, c'est quand elles ont connu des départs glorieux, elles ont connu aussi des départs difficiles, avec du rejet. La calomnie à Thessalonique, ça a été violent, difficile. L'opposition, elle venait des fois des religieux, des fois du pouvoir en place, des fois c'est un petit peu le même. Mais ça a toujours été difficile. Aujourd'hui, c'est toujours vrai. Alors dans un pays comme le nôtre, on est libre, il faut en profiter. Mais on sait que dans certains pays, notamment tout ce qui est Moyen-Orient, Proche-Orient et pas que cela, mais on sait que l'Église, elle est malmenée. Elle est persécutée. Je lisais la circulaire de l'AEP sur l'Égypte. Ben ça nous interpelle quand même. Et on sait que notre pays a connu ces choses-là. Nous sommes quand même un pays qui a payé un cher tribut pour la redécouverte de certaines vérités. Comme je disais il y a quelque temps, on aime bien dire 1789, mais avant 1789, vous avez 200 ans de protestants qui se sont battus pour pouvoir se réunir. Et ça, on l'oublie. Et c'est l'aboutissement. Il doit y avoir des réactions que doit avoir l'Église. D'abord, ne soyons pas surpris de rencontrer de l'adversité, de l'hostilité. Vous avez des fois des gens, et vous leur dites que vous êtes chrétien, ils vous fusillent du regard. Vous leur dites que vous sortez en boîte et vous êtes 30 et ils, ça ne pose pas de problème. Mais ne soyons pas surpris d'être confrontés à de l'adversité, une sorte de calomnie, de la médisance. Jésus a dit, ils m'ont haï, ils vous haïront aussi. Je dirais même des fois, ce qui doit un peu nous étonner, c'est quand on n'en rencontre pas. Alors on ne la cherche pas. Mais je dirais quand même aussi, ne donnons pas le bâton pour se faire dénigrer. Je suis récemment allé sur YouTube et je suis tombé sur des cultes évangéliques. J'avais honte. J'avais honte de ce que j'ai vu. Je dis, les gens qui ne connaissent pas l'évangile, ils vont regarder ça. Mais après, ils n'ont pas besoin d'inventer des mensonges. Mais regardez, ils peuvent nous accuser, nous dire, mais vous êtes stupides. Et j'avais honte de ce que j'ai vu, des bêtises, des... Je crois que c'est... Et puis, mais maintenant que j'ai dit ça, je voudrais dire, pendant qu'il fait jour, et on sait que, voilà, aujourd'hui, on est dans un pays où on peut, soyons la lumière du monde. Et ne mettons pas notre lumière sous le boisseau, comme a dit Jésus, ou sous le lit, mais on veut être la lumière du monde. Acceptons des fois de ne pas être compris, mais on veut faire du bien, on veut proclamer l'Évangile, on veut être fier de ce que Jésus a fait dans notre cœur. Le monde ne comprendra jamais l'Église, la vraie Église. Ce que nous, on appelle évangélisation, on va l'appeler comment ? Prosélytisme. Ce que nous appelons sanctification, on va l'appeler sectarisme ou fondamentalisme. Ce que nous appelons conviction, on va l'appeler intolérance. On n'échappe pas à ce combat-là. Et Jésus a dit de porter sa croix. Rappelons-nous que porter sa croix, c'est pas avoir une grippe de temps en temps, ou être malade. Mais porter sa croix, ça veut dire accepter les souffrances inhérentes à la foi et au fait d'appartenir à Jésus-Christ. Et quand je m'engage avec Jésus, je sais qu'il est là, je sais qu'il tient ma vie. Mais je sais que ça peut déclencher des fois certaines choses. Et je ne dois pas le perdre de vue. Tant mieux si les gens nous reçoivent bien, mais on sait que des fois on dérangera. Par notre manière de... parce qu'on se positionnera. Parce que nous, on dira que ça, c'est quand même péché. Ça, c'est mal. Même si on a envie de dire que c'est bien, nous, on continuera de dire que certaines choses sont mal. Et inversement, et les choses, on dira, c'est bien. Aujourd'hui, vous dites que vous êtes fidèle à votre conjoint, ben, c'est pour une bonne poire. Et nous, on est fiers. On est fiers de cela. Ça a toujours existé. C'est des choses pour lesquelles, je dirais, notre Église n'est pas trop confrontée. Mais dans d'autres endroits, l'Église du monde, elle connaît ça, plus que nous. Et on doit être attentif à cela. La deuxième ruse, c'est la déviation doctrinale, le dérapage au niveau de l'enseignement. L'Église d'Éphèse, elle va être rapidement confrontée à ce danger. Lorsque Paul passe quelques mois plus tard et qu'il va voir les anciens d'Éphèse, il va leur dire ceci. Acte 20, verset 29. Je sais qu'il s'introduira parmi vous après mon départ des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau et qu'il s'élèvera au milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux. Il semble que le dérapage au niveau de l'enseignement n'avait pas encore atteint cette assemblée et Paul les met en garde et les convaincus. Il va y avoir malheureusement des dérapages à ce niveau-là. Dans Éphésiens chapitre 4, verset 11, il est dit ceci, « Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. » jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Ainsi, nous ne serons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction. Mais en professant la vérité dans l'amour, nous croîtrons à tous égards en celui qui est le chef, Christ. Et quand on continue encore dans les épîtres de Paul à Timothée, je rappelle que Timothée est à Éphèse. 1 Timothée chapitre 4 verset 1er. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Il n'y va pas avec le dos de la cuillère. Hein. Par l'hypocrisie de faux docteurs portant la marque de la flétrition dans la propre conscience, il prescrit de ne pas se marier et de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec action de grâce par ceux qui sont fidèles et qui ont connu la vérité. C'est fort comme parole. L'apôtre Paul va jusqu'à parler de doctrine démoniaque, et j'aime le dire, mais regardez ce qu'ils enseignent. Ils n'enseignent pas des trucs... Ils prescrivent de ne pas se marier et de s'abstenir d'aliments que Dieu a voulu. C'est quand même... ça fait réfléchir. Mais si je dis à quelqu'un, ton salut passe par le fait de te marier ou pas te marier, ou par ce que tu manges, on est sur de la fausse doctrine et presque de la doctrine démoniaque déjà. Ça interpelle. Comme quoi, ça montre qu'on peut quand même vite glisser. Et toutes les épîtres nous font réaliser l'ampleur de cette menace. C'est très vite fait de déraper au niveau de l'enseignement. Hier, on parlait avec les jeunes sur l'équilibre. Et l'équilibre au niveau de l'enseignement et de la doctrine, c'est pas toujours évident. Entre ceux qui sont comme ça, ceux qui sont de l'autre côté. Mais on remarque quand même qu'il y a une extrême sévérité de Paul envers ceux qui enseignent un faux évangile, un autre évangile. Et puis, il y a une responsabilité qui est mise sur ceux qui enseignent la parole de Dieu. Il n'est pas possible de faire la liste des déviations doctrinales. C'est un peu comme vouloir répertorier toutes les maladies qu'il y a dans le monde. En plus, elles se multiplient. Et je voudrais dire ceci. L'enseignement, c'est d'abord important. L'enseignement que je m'administre va déterminer ce que je crois. Si la doctrine est saine, la foi sera saine. C'est Paul qui le dit à Timothée. Si la doctrine est olé-olé, la foi, elle va être olé-olé. Et on pourrait comme ça faire beaucoup. Mais vous avez des enseignements qui ne produisent pas la foi. Elles produisent de la superstition, de la crédulité, de la religion. Et nous, on veut produire la foi vivante, une foi saine. Et vous savez, quand certains faux raisonnements sont entrés là ou là, c'est difficile de les déloger. J'ai vu des personnes qui ont pris des plis et on voudrait les amener vers un équilibre. C'est pas facile. C'est difficile. La doctrine, c'est important. Et il nous faut particulièrement veiller sur tout ce qui peut atteindre ce qui touche au salut. Au salut par grâce, au salut par la foi, à la rédemption. Toutes ces doctrines qui vont minimiser l'œuvre de la croix, qui vont affaiblir le rôle central de Jésus-Christ, il faut sortir les armes. Enfin, vous voyez, sortir les épées, mais il faut réagir. C'est très important ce que je dis là. Et vous verrez que c'est souvent là que c'est ciblé. Tout ce qui touche aussi à la divinité de Jésus-Christ. Je reviens sur le salut par la foi, mais l'Église, elle a quand même égaré cette vérité pendant des siècles. Elle s'est perdue, je ne sais pas, dans les 3e, 4e siècles, on va dire, quand l'Église s'est paganisée. Mais on l'a redécouverte au 16e siècle, 1000 ans plus tard. Alors, elle a été redécouverte. Et comme je disais, le tribut, il a été cher payé. On a un pays ou un continent qui a payé durement ce tribut-là. Et on ne voudrait pas le reperdre. On va être attaché à cela. La menace de dérapage sur le plan doctrinal, c'est des fois subtil. Je prends un exemple. À Éphèse, il y a eu des miracles extraordinaires. À un moment donné, il y a même eu des choses qui ne sont pas... On touchait des mouchoirs qui avaient touché Paul et les gens étaient guéris. C'est quand même étonnant. Mais ça peut donner lieu à des pratiques. Où j'imagine certains voulaient récupérer un petit bout de tissu de Paul. Et puis avec ça se monnaie. Et puis, et ça fait quoi ça? Et ça, on bascule sur quoi? Sur de la superstition, sur de la religion. Et jamais, ça a été miraculeux, c'est un moment. Mais on ne va pas systématiser une telle pratique. Mais c'est possible. Un jour, il y a une femme, elle est venue toucher le bord du vêtement de Jésus. Elle l'a touché par derrière. On aime bien dire d'ailleurs dans la prière, Seigneur, on vient toucher le bord de ton vêtement. Mais Jésus va dire à un moment donné, alors qu'il est bousculé par tout le monde, qui m'a touché? Il savait qu'il avait touché. Mais il a voulu amener cette femme à se dévoiler. Pourquoi? Pourquoi l'a-t-il amené à se dévoiler? Il l'a amené à se dévoiler pour différentes raisons. Parce que d'abord, il ne voulait pas seulement la guérir, mais il voulait dire « ta foi t'a sauvée ». Il voulait la sauver. Le but de Jésus, c'est d'abord de sauver les pécheurs avant de les guérir. Jésus voulait aussi que sa foi ne reste pas cachée, mais qu'elle vienne à la lumière. La foi, elle ne peut pas être enfouie. Ça commence comme une graine à l'intérieur, mais à un moment donné, ça doit sortir. Ça doit se manifester. Jésus voulait dire aussi, j'aime le dire comme ça, hein, « la guérison ne me la tchourave pas, hein, je la donne ». Ah, la prise par derrière. Non, c'est Jésus qui donne. Mais aussi, je crois que Jésus voulait le faire comprendre. Si elle était repartie, elle aurait pu se dire, voyez, en touchant un morceau de Jésus, sa foi aurait pu basculer vers une forme de superstition. On bascule très vite là-dedans. Regardez ce qui s'est fait des fois avec le suaire du vêtement, comment on est vite religieux. Et vite, voyez, on peut très vite basculer. L'Église, elle a besoin de croyants qui soient affermis dans la parole de Dieu, qui connaissent les vérités fondamentales, qui connaissent la doctrine du salut par grâce et par la foi. Et on a besoin de cela. Il y a quelques années, il y a un pasteur d'une église voisine qui avait connu des dérapages dans son église, dans la doctrine. Il était venu voir mon pasteur de l'époque et il avait dit ceci. Dans votre église, ça n'arrivera pas parce que vous avez des gens attachés à la parole. C'est un compliment, ça. C'est un beau compliment pour un pasteur. J'aimerais qu'on me dise ça un jour. C'était... Alors, je ne sais pas si on peut parler comme ça, parce que la menace, elle est pour tout le monde. Il faut constamment veiller. Mais rappelons-nous qu'on a besoin d'hommes et de femmes qui connaissent la parole. Qui la lisent, qui placent, qui priorisent bien les textes, qui... Tout ça se pose, la grâce, la foi, la repentance, tous ces mots-là, ça doit être posé. Ça fera des chrétiens solides pour que si un jour le pasteur dérape, les frères et sœurs puissent dire « Oh, frère, vous êtes plus dans les clous, là. » Il faut que ça puisse réagir comme cela. La connaissance de la doctrine, elle n'est pas innée. Hein. Le bon sens peut être inné. Et c'est vrai que des fois, il y a des chrétiens, ils ne connaissent pas bien la Bible, mais ils ont du bon sens. Tant mieux. Parce que des fois, on nous dit des trucs... On ne sait pas où c'est, mais on sent que c'est faux. On sent que ça cloche pas. Quand je me suis converti, il y avait dans certaines églises le réveil de Toronto, qui était en rien un réveil. Enfin, c'était... Les gens faisaient des bruits d'animaux, des choses comme ça, dans certaines églises, et ça me perturbait un petit peu, mais sans trop savoir où encore au départ, je savais que c'était pas bon. Après, j'ai trouvé. Vous voyez, on peut... Mais le bon sens, c'est pas suffisant. Il faut asseoir sa foi dans la doctrine. Et mieux elle est posée, mais plus solide on sera. Et dans les siècles qui sont les nôtres, dans un monde évangélique qui est perturbé, eh ben on a besoin de croyants qui connaissent la parole de Dieu. Je me permets d'ajouter que l'église d'Éphèse, elle a quand même corrigé le tir. Parce que dans Apocalypse chapitre 2, verset 2, Jésus s'adresse à son église et dit « Je sais que tu peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qu'ils ne le sont pas, et tu les as trouvés menteurs. » Ceux qui se disent apôtres, ça m'intéresse parce que vous allez sur Internet, vous en avez beaucoup qui s'appellent apôtres. Mais je ferme là. La troisième ruse, et celle-ci, je voudrais insister un peu plus, c'est le découragement. Acte 19, verset 1er. On va sur cette église d'Éphèse et j'ai fait référence à ce texte maintenant. Acte 19, verset 1er, lorsque Paul arrive à Éphèse, une troisième ruse, le découragement. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, leur dit « Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru ? » Il lui répondit, nous n'avons pas même entendu dire qu'il y a un Saint-Esprit. Élie, de quel baptême avez-vous donc été baptisé? Et ils répondirent, du baptême de Jean. Alors Paul dit, Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui devait venir après lui, c'est-à-dire en Jésus. Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux, et ils parlent en langue et prophétisaient. Ils étaient en tout environ 12 hommes. Paul rejoint, il va se passer des choses extraordinaires à Éphèse. Mais là, on a le début. Paul rejoint un groupe de disciples et il nous est dit qu'ils étaient environ 12 hommes. Le environ 12 hommes, je voudrais m'arrêter un petit peu là-dessus. Est-ce que Luc avait un problème de calcul mental? Même Matthieu, il sait compter jusqu'à 12. Matthieu, il est là, hein? Mais ça veut dire quoi, environ 12? Ça veut dire que dans les 12, on ne sait pas trop si certains étaient disciples, tellement le groupe était malmené et en danger. Ça sent le découragement. Ces pauvres chrétiens avaient connu quelque chose au départ, ils avaient entendu, ils n'avaient pas tout saisi. C'est pas clair comme c'est... Mais ils étaient découragés. Ça sent le découragement. Ils étaient là malmenés, environ 12, parce qu'on ne sait pas trop en fait. On a du mal à faire les comptes tellement il y en a qui sont comme ça. C'est ça que je ressens dans ce environ. Et forcément, ça sent le découragement. Dans l'épître de Paul à Timothée, à plusieurs reprises, Paul lui parle de prendre des forces. Il lui dit, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Et quand on lit un petit peu la liste des problèmes auxquels il est confronté à Éphèse, y a de quoi être découragé, hein. Parce qu'il en a toutes les couleurs, les problèmes viennent de l'extérieur, de l'intérieur, je crois qu'il a toute la palette des problèmes que l'on peut rencontrer, et il y a de quoi être découragé. Et il y a des mauvaises nouvelles, des défections dans l'Église, il y a des trahisons, des choses comme ça. Vous savez, des fois vous avez des choses, vous les portez facilement, et puis d'un coup elles vous pèsent. Ça vous est tous arrivé, ça? Hein, des fois, le même fardeau, il n'y a rien qu'à changer, mais on a l'impression qu'en un jour, on a pris 10 kilos de plus sur les épaules. Parce que on a tous ressenti à un moment donné ce poids sur nos épaules. Des fois, c'est fatigant. Et ça se vit aussi au niveau d'une église. Moi, quand j'ai entendu ces mauvaises nouvelles, ma crainte, ça a été que l'église se décourage. Et c'est pourquoi je crois que c'était bon de se tenir dans la prière comme nous l'avons fait. Le mot découragement, c'est un mot dérivé du cœur. Le découragement, c'est quand il n'y a plus le cœur pour faire face. C'est quand il n'y a plus la niaque, il n'y a plus la grinta, comme disent les sportifs, là. C'est quand on n'a plus le cœur à l'ouvrage. Et ça nous arrive tous. Et des fois, on ne sait pas trop pourquoi, mais on sent un poids qui se pose. Et alors, quelle est la solution quand on se sent découragé? Il y a plusieurs sources d'encouragement, mais la principale, c'est de se tenir devant lui. C'est de dire, Seigneur, on va recharger les batteries. On a tous un téléphone. Hein, et on sait très bien qu'à un moment donné, la batterie, elle baisse, elle reste 17, après elle s'éteint. Hein, et on a besoin de recharger la batterie du téléphone. Et bien, c'est la même chose avec le Seigneur. À un moment donné, on a besoin de recharger les batteries, dire, Seigneur, j'ai besoin de toi. Et on va rentrer dans la présence, pas forcément pour qu'il règle tout de suite le problème, mais pour qu'il puisse agir déjà dans mon intérieur. Quand la Bible dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais rentrer dans la présence de Dieu, d'abord pour trouver la paix. D'abord pour entendre la voix de Dieu. Et moi j'aime, même quand Dieu n'a pas répondu au problème, j'aime quand l'Esprit de Dieu dit, j'ai entendu ta prière. Je suis là. Et c'est ce qu'on a ressenti dans cette semaine. Et ça fait un bien immense. Je voudrais lire un texte avec vous. Là, ce n'est pas l'église d'Éphèse, c'est l'église de Jérusalem. Acte 11, verset 27. Acte 11, verset 27. En ce temps-là, des prophètes descendirent de Jérusalem à Antioche. L'un d'eux, nommé Agabus, se leva et annonça par l'Esprit qu'il y aurait une grande famine sur toute la terre. Elle arriva en effet sous Claude. Les disciples résolurent d'envoyer chacun selon ses moyens un secours aux frères qui habitaient dans la Judée. Ils le firent parvenir aux anciens par les mains de Barnabas et de Saul. Vers le même temps, le roi Hérode se mit à maltraiter quelques membres de l'Église et il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. C'était pendant les jours des pains sans levain. Après l'avoir saisi et jeté en prison, il le mit sous la garde de 4 escouades de 4 soldats, chacune, avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Pierre donc était gardé en prison, et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. Lorsqu'on lit un petit peu sur l'Église naissante, on a l'impression qu'ils sont sur un nuage, ils surfent. Mais ce sont des gens de la même nature que nous. Qu'est-ce qu'on lit ici dans Actes 11 ? On apprend qu'ils sont dans une famine et qu'ils n'ont même pas de quoi manger à Jérusalem. Rappelez-vous au départ, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont tout mis en commun. Ah, c'était beau, hein ? On met tout en commun. Et quelques temps plus tard, ils sont dans la famine et ils ont besoin d'être aidés par des croyants d'autres églises. Mettez-vous à leur place dans la tête. Est-ce qu'on a bien fait ? Est-ce qu'on ne s'est pas un peu emballé ? Est-ce qu'on n'a pas un peu joué trop la cigale et oublié d'être la fourmi ? Est-ce qu'ils n'ont pas un petit peu réagi de cette manière-là ? Je me mets à la place. Ils devaient être mal en point. Et puis, en même temps, Hérode se met à maltraiter l'Église. Jacques est arrêté. On prie. Jacques est tué. Et puis, il continue. Là, c'est Pierre qui est arrêté. Mettez-vous à ce moment-là. À ce moment-là, dans l'Église. Mais combien ils sont à la réunion de prière ? Si c'est Annecy, combien on est à la réunion de prière ? Environ. On est là environ, là. Ça m'interpelle. Il y avait de quoi être découragé. Et ils ont persévéré. Ils ont fait preuve de courage. Et on sait ce qui va se passer. L'ange va intervenir, délivrer Pierre. Mais quand même, il y avait de quoi être découragé. Il y avait une vraie menace sur l'Église. Et la délivrance de Pierre sera aussi la consolation pour la mort de Jacques, forcément. Mais ça a été difficile. Hein. Vous savez, quand on est découragé, je pense que ce n'est pas seulement une tentation chez moi. On a la tentation de faire exactement l'inverse de ce qu'il faut faire. Quand on est découragé, on a envie de se replier sur soi. On se met sous sa couette. On ne veut voir personne. Vous voyez, on a cette tendance, se repli sur soi. Au lieu de plutôt chercher de l'aide, dire on va se tenir devant Dieu. On va chercher ton secours. On va permettre au Saint-Esprit de nous renouveler. Vous voyez, on a... Je crois que c'est vraiment la bonne attitude. Est-ce qu'on peut lire un autre texte ? Je ne sais pas quand j'ai commencé. Lamentation de Jérémie. Lamentation de Jérémie. C'est un texte que j'utilise souvent lorsque, dans les visites, je suis avec une personne qui est découragée. Lamentation de Jérémie, donc c'est avant Ézéchiel. Après Jérémie. Lamentation de Jérémie, chapitre 3, verset 1er. Je suis l'homme qui a vu la misère sous la verge de sa fureur. Il m'a conduit dans les ténèbres et non dans la lumière. Contre moi, il tourne et retourne sa main tout le jour. Il a fait dépérir ma chair et ma peau. Il a brisé mes os. Il a bâti autour de moi. Il m'a environné de poison et de douleur. Il me fait habiter dans les ténèbres, comme ceux qui sont morts dès le temps. Il m'a entouré d'un mur pour que je ne sorte pas. Il m'a donné de pesantes chaînes. J'ai beau crier, implorer du secours, il ne laisse pas accès à ma prière. Je continue un petit peu, et un petit peu après, verset 17. Tu m'as enlevé le bonheur. Je ne connais plus. Tu m'as enlevé la paix, je ne connais plus le bonheur. J'ai dit, ma force est perdue, je n'ai plus d'espérance en l'Éternel. Quand je pense à ma détresse et à ma misère, à l'absinthe et au poison, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. Mais voici ce que je veux repasser en mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. L'Éternel est mon partage, dit mon âme. C'est pourquoi je veux espérer en lui. L'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui, pour l'âme qu'il cherche. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Il est bon pour l'homme de porter le joug dans sa jeunesse. Il se tiendra solitaire et silencieux, parce que l'Éternel lui impose. Il mettra sa bouche dans la poussière sans perdre toute espérance. Il présentera la joue à celui qu'il frappe. Il se rassasira d'opprobre, car le Seigneur ne rejette pas toujours. Mais lorsqu'il afflige, il a compassion selon sa grande miséricorde. Car ce n'est pas volontiers qu'il humilie et qu'il afflige les enfants des hommes. Quand je lis le début de Lamentation de Jérémie chapitre 3, j'ai l'impression de lire le psaume 23, mais version dépressive. Il m'a conduit dans les ténèbres. C'est pas dans les sentiers de la justice. Hein. Ensuite, il dit, il me fait habiter, non pas dans la maison de l'Éternel, mais dans les ténèbres, il dit. Il m'a entouré d'un mur pour que je ne sorte pas. Sinon, il me fait reposer dans les verts pâturages. Là, c'est pas mon âme est restaurée, c'est mon âme est abattue. Vous voyez, c'est le psaume 23, version découragement. Mais il y a un changement qui va s'opérer. Hein. Lorsqu'il est rentré dans la présence de Dieu, lorsqu'il s'est connecté avec le Seigneur, il a dit, Seigneur, touche mon cœur, atteins-moi. Et là, on a l'impression que c'est plus le même qui parle après. Il dit exactement le contraire de ce qu'il a dit avant. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. C'est pas ce qu'il disait avant. Hein. Il a l'impression. Pourtant, la situation n'a pas changé. Mais le bonhomme a changé. Le bonhomme a changé dans son cœur. Et les victoires, elles se remportent d'abord là, avant de se remporter. On aime, on veut que Dieu guérisse la maladie. Mais déjà, la victoire, elle se prend là. On veut que Dieu nous délivre, mais beaucoup de victoires se remportent d'abord là. C'est ce que j'ai remarqué avec le Seigneur. Et il faut l'apprendre à ce niveau-là. Et quand elle est prise là, des fois, ça débloque le reste. Ça m'interpelle toujours. Mais nous n'échappons pas au risque du découragement, tôt ou tard. Mais la meilleure, il y a beaucoup de choses qui peuvent nous encourager. Mais le mieux, c'est d'entendre la voix de Dieu. Je l'ai déjà dit, mais lorsque nous sommes arrivés sur Mâcon et Bourg-en-Bresse, le début a été difficile. Et je me rappelle un jour de pastoral, j'étais à plat. Et je dis, Seigneur, il faut que tu parles. Hein. Il faut que tu parles parce que ça va craquer. Hein. Et il y a eu un don spirituel qui est tombé là. C'était ce qu'il fallait. Et ça fait du bien. Et je me suis accroché à cette parole pendant... Parce que je l'ai vu s'accomplir pendant un an ou deux ans après. Et c'était vraiment quelque chose de bon. C'était dur. Hein. Mais cette parole, elle fait du bien. On a besoin d'entendre la voix de Dieu. Je pense à un autre homme qui était découragé, Ésaïe. Il nous est dit que l'année de la mort du roi Ozias. Ozias, c'est un roi qui avait super bien commencé. Et il a fini lamentablement. Il a fini dans son péché, refusant de se repentir, malade. Et on espérait que ça allait changer. Rien. Il meurt comme ça. Et je me mets à la place d'Ésaïe qui a découragé de voir cette fin-là. Un sentiment d'inutilité, d'incapacité. À quoi bon prier, on peut... Et c'est à ce moment-là qu'il va voir cette vision dans le temple et que le Seigneur va le visiter, le renouveler. Il y a des moments de découragement qui sont des fois un petit peu comme des portes. Soit on replie, soit on dit Seigneur, vas-y. Et c'est vrai au niveau d'une église, comme vrai sur un plan individuellement. Retenons ces trois menaces qui peuvent être sur l'église, sur le plan collectif, et elles sont aussi sur le plan individuel. Le dénigrement avec tout ce qu'il peut y avoir derrière. Mon frère, j'ai envie de dire, si tu es calomnié parce que tu es chrétien, élargis ton cœur et durcis ton front. C'est ce qu'Ézéchiel a dû faire à un moment donné. Si, mon frère, tu sens que tu... Cale-toi dans la doctrine. Il ne faut pas déraper sur le plan doctrinal. C'est très important. Mais une fois qu'on a donné son cœur à Jésus, on veut poser la doctrine sur sa foi. C'est très important aussi. Et puis on est tous exposés au découragement. Plus ou moins. On n'y échappe pas. Mais... Permets-toi à Dieu de nous renouveler, de nous encourager, de faire entendre sa voix. À ce moment-là, on a besoin d'entendre cette voix du bon berger, que la brebis connaît et qui dit « je suis là », tout simplement, des fois. Mais elle fait tellement de bien. On va prier le Seigneur maintenant.